France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur culturel, 1255 personnalités du monde musical ont signé la tribune de la FEVIS, Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, qui a été adressée à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Tribune écrite en réaction au plan de soutien au spectacle vivant mis en place par le gouvernement. Alors de quoi est-il question dans cette tribune? Qu'en pensent les ensembles? Que pensent les ensembles de ces mesures? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Jacques Toubon, président de la FEVIS. Bonjour Monsieur Toubon.
Bonjour Saskia Deville. FEVIS, c'est cette fédération qui a été créée il y a maintenant plus de 20 ans, en 1999. Au début, il y avait 9 ensembles. Historique, si je veux dire. Et aujourd'hui, il y en a près de 150.
C'est ça que j'allais demander. Combien de musiciens cela représente-t-il au total?
Ça représente la fédération, qui naturellement ne représente pas tout le secteur. Il y a beaucoup de musiciens ou d'ensembles qui ne font pas partie de la fédération. Mais en gros, on peut dire que ça représente 5000 artistes, musiciens, chanteurs, bien sûr. Ça représente, et c'est quand même très remarquable, 1 million d'heures à peu près de travail intermittent. Hein, ça c'est essentiel. 4000 concerts, probablement plus de 4000 concerts. Ça veut dire qu'on a réuni 1 300 000 spectateurs, auditeurs en 2018, qui sont les derniers éléments qu'on a dans nos études. On fait 15 à 17% des concerts à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a une forte activité représentative de la musique française à l'étranger, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'autres formations musicales en France. Voilà, c'est ça cet ensemble. Et cette lettre ouverte dont vous avez parlé, elle est une sorte de traduction de la déception, la colère, du désespoir de tous ces musiciens qui ont tous effectivement signé cet appel.
Et on va détailler
tout ce que faisait le gouvernement, finalement, était en train d'oublier ce secteur pourtant essentiel.
Et effectivement, troisième pilier de la musique classique, hein, parmi les signataires de cette tribune, on peut citer les Arts Florissants, le Cercle de l'Harmonie, l'Ensemble Correspondance, les Siècles, les Cris de Paris, Pygmalion, la Capella Méditerranéa ou encore le Concert Spirituel des ensembles dont on parle beaucoup sur France Musique, qui sont très présents.
Mais aussi des personnes très importantes comme programmateurs, par exemple Laurent Brunner, de Versailles. Et des agents, des programmateurs, parce que c'est l'ensemble à la fois de ceux qui créent ces musiques de patrimoine et de création, et en même temps de l'ensemble des professionnels qui sont frappés par naturellement la crise sanitaire, et d'abord par un fait, c'est que vous avez aujourd'hui, quand vous pouvez éventuellement aller dans une salle pour jouer, vous avez en gros un tiers de la capacité de la salle qui est pleine. Ça veut dire un tiers de la recette, purement et simplement. Voilà, et c'est ça le nœud de l'affaire. Et le point de départ de la réaction des ensembles et tous les signataires, c'est justement quand ils se sont rendus compte, avec la réaction d'un certain nombre de directeurs de salles qui leur ont dit « Ah mais non, tu sais, on avait prévu au mois de janvier de faire telle production que tu nous amènes, toi, un opéra. » Eh ben non, je peux pas, parce que je ne peux pas compenser les places que je ne peux pas vendre en vertu de la contrainte sanitaire, parce que je ne bénéficie pas de ce qu'on appelle le fonds de compensation qui a été créé par le gouvernement, très justement, et qui bénéficie au secteur privé, aux musiques actuelles, très, très largement. Et ils ont dit, mais c'est quand même pas possible que nous soyons, comme l'a très justement dit Jean-Philippe Thiélet, le directeur du Centre national de la musique, qui a été créé au 1er janvier, comme un fait exprès, en quelque sorte, si j'ose dire, heureusement que le CNM existait au moment où la crise est arrivée. Et Jean-Philippe Thiélet a dit, c'est l'angle mort de notre politique musicale.
Et effectivement, on va donner quelques chiffres pour que nos auditeurs comprennent bien. Un fonds de compensation de 100 millions d'euros a été mis en place pour compenser justement les pertes d'exploitation liées aux jauges réduites dans les salles. Mais ces 100 millions sont dévolus aux seuls exploitants de salles du secteur privé. Donc cela exclut tous les ensembles subventionnés. Il faut savoir que certains de ces ensembles touchent parfois seulement 1% de subvention.
Bien sûr. L'ensemble, c'est là où il faut bien comprendre que l'indépendance telle que la Févis la représente, c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des entreprises artistiques dont l'essentiel des ressources provient de recettes propres, c'est-à-dire billetterie, mécénat, disques, production. Et dont la minorité des ressources, à peu près 25%, 30%, vient de subventions. Mais en même temps, nous faisons partie du secteur public, c'est-à-dire que notre vocation, ça n'est pas une vocation, entre guillemets, et je n'ai rien contre, ça n'est pas une vocation commerciale. Notre vocation, c'est de redécouvrir des œuvres de patrimoine du XVe siècle jusqu'à aux œuvres notamment du premier XXe siècle qui ont été majeures et qu'on a souvent oubliées. C'est la création de nouveaux spectacles, de nouvelles mises en scène à partir d'œuvres anciennes. C'est, comme vous le savez, les nouvelles interprétations. Ça a été le cas au grand moment de l'époque baroque où on a voulu revenir à l'interprétation originale des œuvres du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ça continue parce que aujourd'hui, il y a plein de ces ensembles, par exemple, qui se consacrent à jouer les œuvres du XIXe siècle sur les instruments de l'époque. Et on a ainsi un véritable travail qui est un travail, je le dis toujours, d'intérêt général pour l'éducation musicale et pour la création et la diffusion musicale. C'est en ce sens que nous devons être partie intégrante de la politique publique musicale qui est forte en France, à la fois pour le plan de relance et puis à long terme.
Et effectivement, ce sont des ensembles qui sont bien implantés en région, ces ensembles-là. Il y a
un aspect territorial très important.
Très important, effectivement. On parle aussi de ce budget alloué à ces ensembles dans le cadre de ce plan de relance qui a été annoncé, pour donner quelques chiffres, 2 milliards d'euros pour l'ensemble du champ culturel, 432 millions d'euros pour le spectacle vivant. De ces 432 millions d'euros, 200 millions sont alloués au spectacle vivant subventionné. Et dans ces 2 millions d'euros, 30 millions seulement pour les ensembles, les orchestres et les festivals. Alors monsieur Toubon, vous avez rencontré madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, lundi dernier pour justement réagir à ce chiffre-là. 30 millions d'euros, on s'en rend compte, hein, avec 200 ensembles concernés et le reste, c'est beaucoup trop peu. Y aura-t-il une augmentation de ce montant? Ont-elles changé d'avis?
Je pense que dans les discussions que nous avons eues, et très, je dois le dire, très positives avec Roselyne Bachelot, et hier encore, nous étions tous ensemble aux états généraux des festivals qui se tiennent à Avignon hier et aujourd'hui, et qui sont une réunion où on a vraiment, à partir de données sociologiques, économiques, je dirais politiques, vraiment approfondissent cette question, le rôle des festivals. Et il est très important pour les ensembles indépendants. Certains ensembles indépendants ont d'ailleurs même créé des festivals, notamment depuis la pandémie, cet été. Et nous avons donc discuté de, un, il y aura une compensation de la billetterie manquante pour les ensembles et pour les salles qui accueillent les ensembles. Alors, pour l'instant, on a parlé de 2 millions qui ont été mis à la disposition du Centre National de la Musique, mais la ministre nous a dit on pourra aller au-delà. Et c'est vrai que, quand je vais le dire de manière comme les musiciens le ressentent, quand on leur dit, au titre de la compensation pour la musique classique, pour vous, vous allez pouvoir avoir 35 000 euros au maximum de compensation, mais qu'ils savent que par ailleurs, telle ou telle grande salle qui diffuse de la musique de variété va pouvoir toucher 500 000 euros de compensation. Ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le premier point, c'est une compensation spécifique. Le deuxième point, c'est aussi faire en sorte que les ensembles soient, dans la relance et dans les aides de la relance, davantage programmés, davantage aidés. Et ça, ce sont des instructions que le ministère va donner aux directions régionales des affaires culturelles, puisque vous savez que tous les crédits, et notamment les 30 millions dont vous avez parlé, en fait, ils sont déconcentrés, ils sont à la disposition des DRAC. Et et des instructions vont devoir être données pour veiller à ce que, dans telle ou telle région, les sommes qui sont confiées à la DRAC ne soient pas ciblées, ne soient pas fléchées uniquement pour les grandes maisons, par exemple tel ou tel opéra régional, mais aillent aussi aux ensembles indépendants. Et voilà les deux principales mesures sur le plan de relance. Mais ce qui me paraît, Saskia, le plus important, c'est que, pour la première fois, on a véritablement dit que dans la politique musicale, il fallait une action structurelle à moyen terme en faveur de l'indépendance. Et l'idée que la ministre a bien voulu accepter, c'est d'en discuter et sur des crédits qui ne seraient plus les crédits du plan de relance, mais qui seraient les crédits de la politique normale, dans la loi de finances normale, nous pourrions, dans les années qui viennent, mettre en place un plan structurel, en quelque sorte, à la fois pour la structuration des ensembles, pour que les entreprises soient plus solides, et en même temps, pour que soient aidées, bien entendu, les créations, les diffusions de ces artistes.
Vers la Traviata à Bordeaux.
C'est vrai que c'est très bien. Jacques Toubon, nous sommes à l'antenne pour parler de cette tribune de la FEVIS à la ministre de la Culture. Et puis, à nos côtés ce matin également, une autre personnalité qui faisait partie de ces artistes reçus lundi dernier à vos côtés, Jacques Toubon, par la ministre de la Culture qui se trouvait autour de ces questions, la violiste Margot Blanchard, violiste et co-directrice de l'ensemble Les Ombres qui est avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour Saskia, bonjour Jacques.
Vous étiez
bonjour,
en concert
Margot.
Hier soir au Festival d'Ambronay qu'on évoquait tout à l'heure, centre culturel de rencontre également signataire de cette tribune. Concerts qui ont repris peu à peu. Que dire tout d'abord, Margot Blanchard, des perspectives de reprise pour les mois à venir, mais aussi pour 2021 et 2022?
Alors, les Ombres ont bénéficié évidemment de la chance de pouvoir passer dans le Festival d'Ambronay hier soir, qui a bénéficié d'une totale refonte pour répondre évidemment aux critères sanitaires actuels. Ce que certains festivals ont pu mettre en place, et certains ensembles aussi, puisque cette année, ce n'était pas le programme que nous avons donné hier, que nous devions interpréter, mais un programme en très grand effectif, avec un chœur, avec un orchestre. Évidemment, on a dû repenser les choses. Donc, les perspectives, elles sont bonnes dans le sens où les ensembles indépendants ont cette capacité à être assez flexibles au niveau tant de la formation que du répertoire, puisque nous sommes, comme l'a dit Jacques, notre propre entreprise. Donc, nous avons cette flexibilité vraiment de pouvoir proposer des formes qui peuvent s'adapter au contexte actuel. Maintenant, la difficulté va être pour les diffuseurs, donc nos lieux d'accueil, nos employeurs qui nous permettent de nous produire, de trouver en fait un équilibre budgétaire avec toutes les pertes qu'ils ont rencontrées. Et c'est là qu'on sent effectivement que les perspectives que nous avions pu mettre en place avec nos diffuseurs fidèles qui nous accompagnent depuis maintenant 10 ans, sont fragilisés par le contexte et que si effectivement ils ne peuvent pas bénéficier du dispositif mis en place de compensation et du plan de relance en fait de tout le secteur culturel et musical, il y a un énorme risque pour eux de ne pas pouvoir donner une édition 2021.
Je recevais ce témoignage hier d'une autre directrice artistique d'un ensemble de musique baroque qui me parlait notamment du rôle des dragues dans la redistribution qui me laissait ce témoignage. On nous pousse à demander des aides, mais généralement on se sent le parent pauvre. Les aides vont toujours aux mêmes personnes. C'est quelque chose que vous ressentez vous aussi, Margot Blanchard?
Alors, je pense que c'est malheureusement, on est comme un dommage collatéral. C'est-à-dire que il y a des dispositifs mis en place. On peut quand même parler de l'exception culturelle française. On se sent quand même chanceux d'être considéré, comme on a pu se sentir tout à fait écouté au rendez-vous avec Madame la Ministre. Mais c'est vrai que ce sont des montages budgétaires. Pour, par exemple, on a un nouveau projet. On veut créer un nouveau programme. On a d'abord nos fonds propres, comme le disait Jacques, donc tout ce qui nous est revenu de nos coûts de cession, mais effectivement, c'est la principale source des revenus des ensembles. Et puis nous avons les aides. Quand on monte une structure, on fait appel à beaucoup de dispositifs, dont par exemple celui mis en place par les DRAC. Lorsqu'on arrive en commission pour défendre notre projet, évidemment, on se prépare. C'est un travail de longs mois, de longue haleine, pas seulement du côté artistique, mais aussi du côté administratif pour qu'effectivement, budgétairement, tout soit vraiment très encadré. Et puis, il y a un vote. Ce vote, même s'il est positif, même s'il est unanime, n'aboutit pas forcément à ce que notre demande d'aide puisse être exaucée. Et c'est là où se situe le problème, c'est que pèsent très lourd budgétairement les grandes institutions. Et alors là, je voudrais vraiment parler parce qu'il y a eu tellement de polémiques sur les, comme s'il y avait un clivage entre ensemble indépendant et institutions. Et moi, je voudrais revenir sur la complémentarité. C'est-à-dire que les institutions et les ensembles indépendants, ils sont, je dirais, codépendants. C'est par le maillage culturel qu'effectuent les ensembles indépendants dans les zones rurales, dans les zones en fait où il n'y a pas forcément l'accès à ces grandes institutions, que nous créons des portes d'entrée de la culture musicale.
Et on en parlait tout à l'heure, Margot Blanchard, effectivement, de ce maillon en région, de cette intégration des ensembles indépendants en région qui sont plus qu'importants. Évidemment, un nouveau rendez-vous est prévu avec la ministre fin octobre pour repenser la place des ensembles indépendants en France, prendre conscience justement de la place très importante de ce troisième pilier qu'on évoquait avec une structure
légère. Dans ce qu'a dit Margot, par exemple, elle a souligné le rôle dans l'éducation artistique et culturelle, parce que en se répandant partout, c'est comme ça qu'on sensibilise à la musique, on éduque à la musique. Les ensembles indépendants ont, dans ce qu'on appelle les activités de médiation, une place tout à fait essentielle.
Et nous allons continuer à en parler dans cette matinale, bien sûr. Merci beaucoup Jacques Toubon et Margot Blanchard d'avoir été des nôtres pour évoquer cette tribune de la FEVIS qui se trouve sur le site de la FEVIS, qui est à signer si vous souhaitez accompagner cette réflexion. Merci à tous les deux et bonne continuation, bien évidemment.
Merci à France Musique.
Merci d'avoir été des nôtres.
Merci à France Musique.
Philippe Telemann, Par les ombres, ensemble dirigé par Margot Blanchard, co-dirigé par Margot Blanchard aux côtés de Sylvain Sartre, ensemble qui sera en concert le 14 janvier prochain dans le cadre des grands concerts de Lyon et le 29 janvier prochain à l'Orchestre Opéra Orchestre National de Montpellier. À noter aussi une sortie de disque Boccherini dont on reparlera très certainement sur France Musique. Il est 8h51.
À réécouter sur francemusique.fr.